de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Indonésie affirme son engagement envers la synergie de la sécurité alimentaire dans la région de l'ASEAN. Forum de l'ACDFM renforce la sécurité régionale de l'ASEAN. Ministre Erlangga rencontre une délégation britannique pour discuter de la présidence de l'ASEAN en 2023. Indonésie assure le titre de champion du classement général hat-trick aux Jeux paralympiques de l'ASEAN 2023. Indonésie a présenté le développement du système iMotion lors de la réunion à Homsa. Président de l'Assemblée consultative populaire indonésienne, MPR, espère qu'il y aura une mise en œuvre de l'égalité des sexes en Indonésie. Et au Fidji, le forum AIS appelle à renforcer la collaboration entre les États insulaires. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. L'Indonésie, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'alimentation, confirme l'engagement de synergie à se joindre aux pays membres de l'ASEAN afin de renforcer la sécurité alimentaire face à la menace d'une crise alimentaire mondiale. Le chef de l'Agence nationale de l'alimentation, Arif Prasetyo, a dit dans un communiqué à Jakarta mercredi 7 juin a déclaré que l'Indonésie devait prendre des mesures concrètes pour surmonter la menace d'une crise alimentaire mondiale. Par conséquent, il est important d'assurer la stabilité de la disponibilité et accessibilité alimentaire et de l'utilisation de la nourriture dans la région. Lors de l'ouverture directe de la réunion du Conseil de la réserve de sécurité alimentaire de l'ASEAN, le chef de l'Agence nationale de l'alimentation a déclaré que la position de l'Indonésie en tant que titulaire de la présidence de l'ASEAN était très importante. L'Indonésie a demandé à l'ASEAN de jouer un rôle actif dans la création et le maintien de la paix et de la prospérité dans la région et dans le monde, et de maintenir l'ASEAN en tant que centre de croissance économique. Arif a en outre déclaré que l'Agence nationale de l'alimentation joue un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le commandant des forces armées indonésiennes, TNI, amiral Yudhoyono, a déclaré qu'une réunion de responsables militaires lors de la 20e réunion des chefs des forces de défense de l'ASEAN, ACDFM, à Nusa Dua, Badung, Bali, mercredi, vise à renforcer la sécurité pour la région de l'Asie du Sud-Est. Yudo Margono a déclaré qu'il y avait plusieurs points principaux discutés lors de la réunion des responsables militaires qui concernaient essentiellement la sécurité pour la prospérité des pays de l'ASEAN grâce à la coopération militaire dans le cadre de l'élaboration du thème de la conférence au sommet de l'ASEAN, Question de l'ASEAN, l'épicentre de la croissance. Le commandant des forces armées indonésiennes a expliqué que la réunion des commandants des forces armées est une réunion annuelle des commandants des forces armées des pays membres de l'ASEAN. Yudo Margono a ajouté que les 11 responsables militaires de l'ASEAN ont convenu de s'unir pour renforcer la position de l'ASEAN, en particulier pour maintenir la stabilité dans la région, notamment en effectuant régulièrement des entraînements, à la fois en effectuant des entraînements conjoints et en effectuant des patrouilles coordonnées dans les zones frontalières bien établies jusqu'à présent. En dehors de cela, il a également été convenu de renforcer la coopération de chaque force, à la fois l'armée, la marine et l'armée de l'air. Le ministre coordinateur de l'économie de l'Indonésie, Erlangga Hartanto, a rencontré l'envoyé du Premier ministre britannique pour le commerce pour l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et l'ASEAN, Richard Graham, qui soutient la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023 à Jakarta mercredi 7 juin. À cette occasion, cité par Antara mercredi, le ministre Erlangga a déclaré que l'Indonésie appréciait le soutien du Royaume-Uni à l'Indonésie, à la fois sur l'agenda du président de l'ASEAN et les relations bilatérales de l'Indonésie avec le Royaume-Uni, qui ont été bien construites et entretenues. Entre-temps, Richard Graham a déclaré que le Royaume-Uni, en tant que partenaire de dialogue de l'ASEAN, a apporté son soutien à deux des réalisations économiques prioritaires de l'Indonésie, à savoir les priorités liées au développement d'un cadre d'initiative industrielle dans la région de l'ASEAN et la préparation d'une feuille de route pour soutenir les objectifs de développement durable dans la région. En tant que l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Indonésie dans la région européenne, le Royaume-Uni s'est également déclaré prêt à soutenir le développement en aval de l'industrie, de l'écosystème des véhicules électriques et la numérisation de l'économie en Indonésie. L'Indonésie se renforce en tête du classement des médailles et c'est certain de réussir un tour du chapeau en tant que vainqueur des ASEAN Paragames 2023 au Cambodge, car elle n'a pas été rattrapée par les concurrents de la 12e édition du plus grand événement sportif pour handicapés en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a fait savoir le chef de mission du contingent indonésien Andy Herman dans une déclaration écrite reçue à Jakarta mercredi soir. Le mercredi soir, à 22h45 de l'ouest de l'Indonésie, l'équipe indonésienne avait remporté 128 médailles d'or, 118 médailles d'argent et 69 médailles de bronze. Le contingent de la République d'Indonésie a dépassé l'objectif de médailles fixé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, à savoir 121 médailles d'or. L'Indonésie remporte l'or grâce à ses principaux contingents en athlétisme, natation et haltérophilie. Pour le volleyball, l'équipe de sport féminin ainsi a remporté l'or. Dans le sport d'échecs, le contingent indonésien a également remporté des médailles d'or. Le ministère indonésien des Transports a présenté le développement du système indonésien de surveillance intégrée de la navigation ou du système iMotion lors de la 23e réunion annuelle des chefs des agences de sécurité maritime d'Asie-Pacifique à Promsa. Le chef de la sous-direction des panneaux et de l'atelier de la direction de la navigation Yudonur Setiaji, par le biais d'une déclaration reçue à Jakarta, a expliqué mercredi que iMotion est un système conçu pour intégrer les données des services de trafic maritime VTS et de Station Radio Côtière SROP dans sous la forme d'une station de base du système d'identification automatique AIS. Radar, voie, système de vidéosurveillance terrestre avec données AIS via des services par satellite. iMotion, selon Yudonur Setiaji, peut être utilisé pour surveiller le trafic maritime en temps réel et historiquement améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation maritime tout en soutenant les services de protection de l'environnement maritime. iMotion peut également être utilisé et peut être mis en synergie avec des systèmes appartenant à d'autres ministères et agences. Le président de l'Assemblée consultative populaire indonésienne, Bambang Susatyo, espère que la mise en œuvre de l'égalité des sexes et de la justice en Indonésie est conforme à l'esprit concernant ces deux questions, comme l'implique les articles de la Constitution de la République d'Indonésie de 1945. Bambang a déclaré que l'esprit de l'égalité des sexes et de la justice est impliqué dans les individus en tant que sujet juridique visé par la Constitution de 1945 de la République d'Indonésie en tant que toute personne ou tout citoyen. Il a dit cela après avoir reçu la visite de l'Association des femmes de l'Association des intellectuels musulmans indonésiens, ICMI, à Jakarta, jeudi. Auparavant, lors d'une réunion entre les deux parties, Bambang avait apprécié la formation du Conseil central des femmes de l'ICMI en tant que forum d'autonomisation des femmes indonésiennes pour qu'elles soient plus avancées et accomplies. Selon lui, les cas de violence faites aux femmes, encore relativement nombreux, devraient être sérieusement pris en compte et traités par les différents acteurs. Le Forum archipélagique et des États insulaires a tenu la 7e réunion des hauts fonctionnaires SOM à Suva, Fidji, mercredi 7 juin 2023, qui a appelé au renforcement de la collaboration entre les pays insulaires et l'archipel. L'adjoint à la souveraineté maritime et à la coordination de l'énergie au ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Jody Mahardi, a déclaré jeudi dans une déclaration écrite à Jakarta que l'événement était la 7e réunion officielle au niveau des hauts fonctionnaires depuis la formation du Forum AIS en 2018. Et la première fois qu'il a eu lieu en dehors de l'Indonésie. Le Forum AIS accueille 51 pays insulaires et archipels comme moyen de communication et de collaboration pour encourager le développement et surmonter les défis communs dans le secteur maritime. Le 7e Forum SOM AIS à Suva s'est tenu de manière hybride, hors ligne et en ligne, et a réuni des représentants de 22 pays AIS, dont l'Indonésie et les gouvernements des États insulaires et archipélagiques du monde entier, qui se tiendra le 11 octobre 2023 à Bali, Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Ces auditeurs, bonsoir. Voici le Quai diplomatique et pour le titre, 500 personnes célèbrent le festival de merveilleux de Nusantara à Johor Bahru. Le gouvernement de l'État de Johor, en collaboration avec le consulat général de la République d'Indonésie à Johor Bahru, l'ambassade d'Indonésie à Kuala Lumpur, le département de l'éducation de l'État de Johor et la Fondation de l'héritage de Johor ont organisé pour la première fois le programme interculturel Festival du Merveilleux de Nusantara 2023 dimanche. Le programme vise à apprécier la diversité culturelle des deux pays. Plus de 500 personnes ont animé le programme interculturel du Festival du Merveilleux de Nusantara 2023. À cette occasion, le consul général d'Indonésie à Johor Bahru, Sigit Suryantoro, a déclaré que le consul général d'Indonésie à Johor souhaitait démontrer un partenariat étroit à travers des cultures. Par conséquent, il espère que le festival sera un succès. Afin qu'il puisse se tenir à nouveau dans un meilleur format l'année prochaine, devenant un agenda culturel annuel conjoint pour l'Indonésie et la Malaisie, en particulier Johor. L'événement qui a lieu le 4 juin 2023 au complexe du patrimoine du Sultan Abu Bakar a mis en valeur l'harmonie et la richesse des cultures des deux nations à travers des spectacles interculturels, des expositions de plats du patrimoine, de la langue et de la littérature, de la peinture et des jeux traditionnels pour apprécier la diversité culturelle de l'Indonésie et de la Malaisie. En outre, le programme a également présenté des spectacles de danse uniques de 4 associations d'étudiants indonésiens en Malaisie, cette école de l'État de Johor et un spectacle de clôture spécial de l'école malaise des arts de l'école indonésienne ainsi que des artistes culturels de la Fondation de l'héritage de Johor. Des étudiants de plusieurs écoles malaises à Johor Bahru, l'école indonésienne de Johor Bahru, SIZB, l'école indonésienne de Kuala Lumpur, SIKL, ainsi que des étudiants indonésiens de Sanggar Swastamita à l'Université technique de Malaisie, UTM, et l'Université ouverte du groupe d'études de Johor, UT Pokja Johor, ont tenté de prêter diverses danses et arts culturels des deux pays. Les danses de Zapin Johor, de Saman et d'Indang ne sont que quelques-unes des danses exécutées sans interruption pendant le spectacle de 2 heures avec la chorégraphie, les costumes, l'éclairage et le son synchronisé, le public semblait très satisfait et amusé. Le Festival du Merveilleux de Nusantara 2023 s'est clôturé avec tous les participants chantant ensemble tout en agitant les drapeaux des deux pays qui remplissaient la salle de mise en scène. C'est Zulita, c'était la Quai diplomatique pour ce soir.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Ces auditeurs dans quatre coins du monde, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 juin 1921, la naissance du président indonésien Suharto. Suharto est le deuxième président de l'Indonésie à remplacer Sukarno. Il est né dans un petit village à Bantul, Yogyakarta, le 8 juin 1921. Avant de devenir président, Suharto était un chef militaire pendant les occupations japonaises et hollandaises. Il est officiellement devenu président de la République d'Indonésie en 1968. Son règne a pris fin en 1998 après sa démission le 21 mai de cette année-là, à la suite des émeutes de mai 1998 et de l'occupation du bâtiment de PR-MPR par des milliers d'étudiants. Passons maintenant à l'événement du 8 juin, Journée mondiale des tumeurs cérébrales. La Journée mondiale des tumeurs cérébrales est célébrée chaque 8 juin. La Journée mondiale des tumeurs cérébrales est célébrée pour sensibiliser et éduquer la communauté mondiale sur les tumeurs cérébrales. La Journée mondiale des tumeurs cérébrales a été marquée pour la première fois comme une journée internationale de souvenir en 2000 par Deutsche Hirntumorhilfe. L'association allemande des tumeurs cérébrales a été créée en 1998 et compte 500 membres inscrits de 14 pays. Le but de la communication est également de rendre hommage aux patients atteints de tumeurs cérébrales, à leurs familles, aux professionnels de la santé et aux soins impliqués dans les soins aux personnes atteintes de cette condition médicale. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 8 juin 2008. La Journée mondiale des océans a été instituée par les Nations Unies. Le Canada a proposé la Journée mondiale des océans à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Cette idée n'a pas été immédiatement approuvée par les Nations Unies. La proposition de durabilité est venue en 1998 lorsque la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO a fait campagne pour une journée mondiale des océans. Ensuite, deux organisations de conservation, à savoir le Réseau de l'Océan mondial et le Projet d'Océan avec divers autres groupes environnementaux, ont célébré la journée de l'océan en 2002. Ce n'est qu'en 2008 que l'Assemblée générale des Nations Unies a officiellement désigné le 8 juin comme la Journée mondiale des océans. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Katakanlah saja, jangan. Cinta mu
katakan saja, sudahlah cepat selesaikan.
Katakanlah saja.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
C'est Zom Lanten pour la rubrique suivante. Voici donc mon Indonésie, dont le titre est « La stratégie de KLHK pour gérer les déchets plastiques en Indonésie ». Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, commémore la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2023 en appelant à l'importance de contrôler les déchets plastiques qui ont désormais pollué de nombreuses rivières, terres et mers. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a déclaré lundi 5 juin à Jakarta que le gouvernement avait élaboré une stratégie pour lutter contre la pollution plastique afin que l'Indonésie puisse être exempte de déchets plastiques. Selon elle, la politique de traitement des déchets plastiques est devenue un agenda national sérieux depuis 2016. Cela a commencé avec le concept de plastique payant qui à l'époque a apporté une dynamique assez intense pour que le ministère de l'Environnement et des Forêts continue à prendre des mesures correctives. Par ailleurs, les dynamiques associatives se renforcent également en ligne avec les politiques gouvernementales et se développent jusqu'à présent dans toutes les régions à travers les banques de déchets, la gestion intégrée des déchets jusqu'aux entreprises d'économie circulaire. En effet, les déchets plastiques produits sur Terre et finissant dans l'océan sont également traités spécifiquement. À cet égard, Siti Nurbaya expliquait que le gouvernement a créé un cadre juridique et institutionnel pour un processus complet de gestion des déchets. Sa mise en œuvre au niveau national et régional comprend la surveillance du cycle de vie des produits en plastique ainsi qu'une approche préventive de la pollution par les déchets plastiques d'origine terrestre. Le règlement comprend des mesures plus spécifiques afin de traiter de la production, du transport, de la consommation, du commerce et du traitement en fin de vie des plastiques et de leurs propriétés additives. Sur la base des données du Système national d'information sur la gestion des déchets, SIPSN, en 2022, l'Indonésie produit environ 68,5 millions de tonnes de déchets et environ 18,5% du volume de déchets sont des déchets plastiques. Ces auditeurs, c'était l'Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Semua kebaikan untuk sesama.
Bagikan semua kebaikan untuk sesama. Dan berhentilah buang-buang waktumu percuma. Berbagilah, bagikan semua.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tard, Maintenant, nous allons présenter le magazine culturel.
Ces derniers temps, le village de tourisme créatif de Taekong est l'une des destinations touristiques que vous devez visiter lors de votre visite à Belitung, dans la province de Bangka Belitung. Ce village est l'une des destinations qui offre une expérience touristique complète à partir de la nature, de la culture à artificielle. L'emplacement est très stratégique. Depuis l'aéroport international SAS Hanajudin, cela ne prend que 25 à 30 minutes. Depuis le centre de la ville de Tanjung Pandan, cela ne prend que 10 à 15 minutes. Le village de tourisme créatif de Taekong est un village situé sur la route principale du tourisme Belitung. Soutenu par l'existence de groupes de sensibilisation au tourisme au port d'Arwis actifs et productifs, ce village touristique est fort dans le tourisme de qualité et durable. L'an 2 est réalisé dans la destination touristique Aik Rusa Berehun. Cette zone est autrefois une ancienne mine des temps que Port Darwis et la communauté ont développé en une destination durable. La communauté a effectué la remise en état de manière indépendante, transformant cette ancienne zone minière pendant 3 ans, de 2013 à 2016, en une destination touristique. Le financement initial s'est fait par le biais d'un modèle de cotisation des membres de la communauté de 10 000 de rupiah par mois. En fin de compte, une fois que la communauté touristique d'Aik Rusa Berehun a pu être indépendante et faire preuve de cohérence, le gouvernement du village de Taekong a commencé à décaisser le budget du village de Taekong pour la période 2016 à 2018 afin de construire des installations et des infrastructures touristiques. Aujourd'hui, Aik Rusa Berehun s'est complètement transformé en une destination, en particulier le tourisme éducatif, doté d'installations et d'infrastructures qualifiées, à commencer par des houttes où se réunissent des réunions, des cantines, des salles de prière, des toilettes, des cuisines traditionnelles, des séjours chez l'habitant, des stands de MPME, ainsi que des lieux de spectacle de la danse et de la musique de gambus. À cet endroit, vous pouvez également réaliser des activités de plantation de semences et de légumes dans des lieux d'agrotourisme locaux. Outre Aik Rusa Berehun, le village de tourisme créatif de Taekong possède également une zone de forêt de mangrove et une plage qui s'étend largement. Cet emplacement est généralement utilisé comme une variété d'activités de tourisme éducatif, plantation de mangrove, ngeremis ou collecte de coquilles de moules, pêche, exploration de mangrove, observation de photos de coucher de soleil ainsi que le tourisme nulo qui est une façon traditionnelle de chercher du poisson, de crevettes et crêpes la nuit. Le village est également un potentiel dans le secteur de l'économie créative à commencer par les arts de la danse et du reste culturel tels que la nourriture bedugalang. Ce village touristique possède également une variété de souvenirs, tant culinaires qu'artisanaux et modes, que vous pourrez acheter pour vos souvenirs de vacances. C'est Zorita, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Tunda lagi. padamkan harapan, tapi cinta tak juga kau katakan.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter l'Indonésie est classée première dans l'indice mondial des voyages musulmans. L'Indonésie a remporté le titre de meilleure destination de voyage pour les musulmans de l'année 2023 dans le classement Mastercard Crescent Indice Mondial des voyages musulmans 2023 à Singapour le jeudi 1er juin 2023. L'Indice Mondial des voyages musulmans 2022 est un rapport annuel lancé par Mastercard Crescent Rating. Le rapport annuel, qui en est à sa 8e année, analyse les données de près de 140 pays pour fournir une compréhension complète des destinations les mieux adaptées pour répondre aux besoins du segment de voyage halal de plus en plus influent. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré qu'il s'agissait d'une déréalisation extraordinaire où en 2021, l'Indonésie a été classée 4e et 2e en 2022. Selon lui, cette réalisation à la première place était un exploit parce que l'Indonésie avait exécuté avec succès des programmes phares. Le ministre Sandiaga Uno a révélé que cette réalisation était le résultat de la collaboration des partenaires, notamment l'Association indonésienne du tourisme halal, Halal in Travel, Mastercard Crescent et les autres. Grâce à cette collaboration, a déclaré Sandiaga, l'Association indonésienne du tourisme halal a pu remporter deux prix à la fois, entre autres la campagne de sensibilisation des parties prenantes de l'année, décernée par le Mastercard Crescent Rating Award, et la campagne de sensibilisation des parties prenantes de l'année décernée par Halal in Travel Award 2023. Sandiaga Uno apresiasi tout les parties qui se sont battues ensemble et espère que cette réalisation pourra être maintenue et améliorée. Il espère également que l'objectif de 8,5 millions de touristes sera soutenu par le tourisme halal et les touristes musulmans. De plus, cette réalisation devrait accélérer l'objectif de création de 4,4 millions d'emplois en 2024, donc en basé sur le tourisme halal. Selon lui, la création d'emplois dans le secteur du tourisme 6 fois plus que dans les autres secteurs peut également responsabiliser la communauté de manière significative. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Yana Julio, intitulée Selamanya Cinta. Chers auditeurs, l'une des chansons popularisées par Yana Julio et Selamanya Cinta. Cette chanson est la chanson principale d'un album portant le même titre, Selamanya Cinta. Cette chanson, sortie en 1995, parle de quelqu'un qui est tant capable d'exprimer son amour et son désir arde pour l'idole de son cœur qui le rend anxieux. En fait, s'il est capable de s'exprimer, il est sûr de pouvoir aimer sincèrement l'idole de son cœur par toujours. Bon, chers auditeurs, voici Yana Julio va chanter une chanson intitulée « Cela mania cinta ». Bonne écoute.
Thank you.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.